Et donc nous sommes dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une analyse martienne de la République islamique d'Iran. Et nous sommes toujours avec Habib, donc, qui est à la fois le préfacier de la politique en Iran de Théocom, paru aux éditions de Sénone Véro en 2010, et qui est un peu l'ouvrage de référence sur ce dont nous parlons aujourd'hui. Et puis c'est également un ex-participant à la révolution iranienne en tant que sympathisant des moudjahidines marxistes. Donc, rebonjour Habib.
Rebonjour.
On a parlé longuement dans la première partie de cette émission de la révolution iranienne de 1979, de ses racines immédiates, et également, disons, des conditions qui lui avaient fait prendre la forme qu'elle a prise. Et on en était arrivé à un moment où finalement, la gauche iranienne d'une part et les islamistes de Khomeini d'autre part étaient les deux faces de la révolution en Iran de 1979. Et on avait montré en quoi est-ce que finalement leurs projets respectifs s'inscrivaient dans le cadre d'une volonté de développement d'un capitalisme national autocentré en Iran, qui avait été tenté sous Reza Shah et Mohammad Reza Shah, donc de 1921 jusqu'à 1979, et qui avait imparfaitement réussi. Et là, on en était encore à un moment où la forme du régime politique que prendrait l'Iran après le Shah était encore relativement indécise, puisque la balance pouvait pencher tant du côté du populisme khoméniste que de la gauche iranienne. Et donc, on va maintenant parler de ce qu'on pourrait appeler, en référence à la Révolution française, le Thermidor de la Révolution iranienne. Thermidor, non pas dans le sens où ce serait le début d'une contre-révolution et qu'avant c'était la Révolution et que tout était merveilleux, comme dans l'interprétation marxiste classique de la Révolution française. En réalité, Robespierre et le Comité de salut public annoncent déjà une impasse de la Révolution française, qu'elle a atteint ses limites, et le mouvement en réalité contre-révolutionnaire, proprement dit, commence en France dès 1793 et en Iran dès avant la répression de la gauche par l'aile islamique du mouvement. Mais malgré tout, il faut quand même revenir sur ce Thermidor de la révolution iranienne qui, comme en France, a consisté dans un écrasement de la gauche, puisque en France, il y a eu la terreur blanche et du côté de l'Iran, une répression sanglante de la gauche qui a lieu en plusieurs étapes, de à peu près 1980-1981 jusqu'à 1989. Donc, est-ce que tu peux du coup revenir un petit peu sur ce Thermidor de la révolution iranienne avant d'expliquer comment est-ce que se met en place la République islamique telle qu'on la connaît aujourd'hui?
Oui, avec plaisir. On a essayé d'expliquer comment le mouvement de la lutte de classe, le dynamique qu'il y avait dans la lutte de classe, fonctionne de sorte que aucune des deux forces en présence n'était pas suffisamment forte pour pouvoir imposer du coup son type de régime correspondant à son mode de développement, ni la bourgeoisie libérale iranienne, comme on a expliqué longuement qu'il avait trop peur d'un prolétariat de plus en plus fort, ni le prolétariat en tant que tel coincé dans la façon qu'il était et qui vivait en réalité ce capitalisme en enclave qui existait en Iran avec toutes les contradictions que ça a créées. Le mouvement de l'insurrection de 79, quand c'est arrivé, on a dit que la première chose que le régime a essayé de faire, c'est de remettre le pays en route et de réprimer toutes les forces politiques. On a vu que les femmes, surtout, et elles ont subi peut-être les premières à côté du mouvement ouvrier, du mouvement paysan, cette répression parce qu'il fallait arrêter, il fallait désarmer les gens. Ils ont désarmé les gens, ils ont constitué leur garde impériale, l'armée de la Révolution. On a assisté donc à une véritable répression, mais cette répression était tout le temps en lutte au sein de la société qui fonctionnait quand même de manière démocratique. C'est une société qui sort d'une révolution, donc ça peut pas se calmer et ça peut pas subir la répression en réalité sans rien dire. Les mouvements populaires continuaient, les mouvements de grève dans les usines continuaient, les mouvements au sein de la société, c'est une société en ébullition. Je dirais même que ces 3 années en réalité de 79 1919 jusqu'à 82, jusqu'au commencement de la guerre, c'est le deuxième épisode qu'on pourrait dire qu'on a une sorte de démocratie par la force des choses en Iran. Une première fois, on a longuement expliqué, c'était après Reza Shah et avant le coup d'État de 53, donc on avait 12 ans de démocratie imparfaite. Là aussi, je peux dire qu'on avait... 3 ans de démocratie, plus ou moins, malgré tous les efforts que faisait la République islamique qui s'instaurait petit à petit, de réprimer les forces populaires. Un moment important, on a mentionné le cas du Kurdistan iranien où les forces de gauche étaient très présentes et ils poussaient vers une sorte d'autonomie dans le cadre de l'Iran, mais une autonomie, ça s'approchait des républiques populaires, ou également au nord de l'Iran, à Turkmensara, où les forces de gauche, dans les deux cas, étaient très présentes. Au nord, c'était les fédaïnes qui avaient de l'influence, et puis au sud, chez les Kurdes, c'était les léninistes sous forme d'un groupement qui s'appelait Kumala à l'époque, c'était les forces qui étaient importantes dans ce mouvement-là, qui ont rentré carrément en guerre avec la République islamique. C'est l'armée et les passerins qui ont été envoyés pour les réprimer. À côté de ça, on a eu au sein du pays des élections aussi. Il fallait bien élire les gens. Donc, il y avait une première élection qu'ils avaient mis une sorte de référendum, comme ils disent, la République islamique, oui ou non. C'était le référendum qu'ils avaient mis. Et les forces de gauche, très souvent, où ils ont complètement boycotté les élections, où ils ont dit non. Moi, personnellement, j'ai participé, c'est la seule votation dont j'ai participé de ma vie, et j'ai dit non. Mais voilà, ils ont dit après coup que c'était 98,5% de la population qui avait voté République islamique, oui. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'est posé la question, d'ailleurs, pourquoi République islamique, pourquoi pas République démocratique, pourquoi pas République d'Iran tout court? Et c'est Khomeini qui avait dit République islamique, pas un mot de plus, pas un mot en moins. Donc, ils ont passé le référendum comme ça. Mais entre-temps, donc, on a eu les élections du Parlement iranien. Pour dire que la gauche est encore présente, il faut préciser qu'ils ont participé à ces élections. La gauche a participé à présenter des candidats. Et ils ont profité, suivant la ligne léniniste de l'époque, de la tribune que ça leur offrait pour pouvoir faire la propagande. Et donc... parler de la réalité des choses de la République islamique, à quel point ils étaient en train de réprimer les forces révolutionnaires et tout ça. Et puis après cet événement, on a eu une autre élection, c'était l'élection de la Chambre constituante, si tu veux, et qui est devenue, après coup, la constituante islamique. Mais il faut savoir que, par exemple, la notion de velayat-e-fari, pour dire que les choses n'étaient pas simples, que cette bourgeoisie et cette petite bourgeoisie dans leur alliance n'avaient pas des choses toutes faites précises. C'est quelque chose, la République islamique, qui s'est fait au fil de l'eau, je dirais au fil de la lutte des classes. À ce moment-là, au début, quand ils ont proposé la constitution, dans l'esquisse, je dirais, de la constitution de la République islamique, le mot velayat-e-fari, c'est-à-dire la fameuse notion qui attribuait tous les pouvoirs à un guide descendant de l'imam, représentant de l'imam, n'existait même pas. Velayat-e-fari. Velayat-e-fari a été ajouté à une deuxième version complémentaire qui est venue par la suite. Donc rien n'était encore fixé définitif. C'est le courant de cette lutte et la façon que les forces se sont constituées dans cette lutte qui a en réalité constitué et qui a abouti à la République islamique. Après l'épisode de cette constitutionnelle dont, encore une fois, les forces de gauche ont participé et ont présenté des candidats pour pouvoir utiliser ce tribune, on a un événement qui a son importance, c'est la révolution culturelle, comme ils disent. La révolution culturelle, il s'agissait en réalité un des foyers révolutionnaires qui entretenait l'esprit révolutionnaire, c'était bien entendu les universités. Les universités étaient devenues une sorte de siège social de toutes les forces révolutionnaires qui existaient. C'était une ambiance très intéressante, une ambiance joyeuse, démocratique. Il y avait des journaux qui existaient, il y avait des discussions, des débats, des films, d'expositions. Enfin, l'université de Téhéran, je me souviens, c'était vraiment... Et en face de l'université de Téhéran, tu avais la grande avenue où il y avait quasiment toutes les manifs qui passaient par là. C'était un peu l'équivalent de entre République et Nation ou République et Bastille, quoi. C'était la grande rue Shahrezad, on disait à l'époque, la rue Reza Shah, et qui avait toutes les librairies qui étaient en face de l'université. C'était vraiment un monde d'effervescence révolutionnaire incroyable. Et ça, la République islamique ne pouvait pas tolérer. Donc, ils ont attaqué, sous le nom de la révolution culturelle, ils ont attaqué les universités. Le but, c'était de purger en réalité l'université de tout esprit de contestation et de gauche. Donc, il y a eu des luttes. Bon, Banisadr, par exemple, qui était président de la République à cette époque-là, il est venu et il était avec le gouvernement, avec les forces de répression du gouvernement et les forces de la République islamique qui, quelques mois plus tard, l'ont foutu dehors. Hein. Mais il faisait partie quand même du gouvernement, comme on disait, c'était l'aile libérale du régime. Ils ont réprimé vraiment il y a eu 3-4 morts dans quelques soirs à l'université occupée par les forces de gauche. Ils ont attaqué, ils ont tué des gens et ils ont amené même les ouvriers de l'automobile de Paycon à l'époque qui sont venus soi-disant évacuer les étudiants qui occupaient les universités. Donc, on a eu cet épisode aussi d'épuration de tout esprit de contestation. Après ça, on a la guerre irano-irakienne. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'entre le jeu que faisait la République islamique, entre une tendance se montrant anti-impérialiste, contre les puissances occidentales, tout ça, et puis la répression qu'il menait à l'intérieur et le fait qu'il essayait de faire tourner les roues de l'économie de la seule façon que ça pouvait tourner, c'est-à-dire dans le même fonctionnement que sous le régime de Shah. À chaque fois qu'ils étaient sous la pression de la force de la rue, de la gauche et tout ça, ils avaient besoin, ils faisaient quelque chose qui semblait anti-impérialiste. Mais ça se faisait vraiment au fil de l'eau. C'était pas quelque chose de prémédité à proprement parler. Par exemple, comme j'avais expliqué la dernière fois, la gauche avait déjà essayé d'occuper l'ambassade. Et donc, dans cette lutte perpétuelle entre les forces de gauche et les forces religieuses, chaque fois que sous la pression de la rue, sous la pression de mouvements populaires et de la gauche, la République islamique et les tendances religieuses qui faisaient partie du gouvernement ou pas, qui existaient au sein de la société, voyaient que, ils sont en train d'être déséquilibrés et perdre l'hégémonie idéologique qu'ils pouvaient avoir sur le peuple, ils donnaient un coup à gauche. Donc, on a vu que d'un seul coup, les soi-disant des étudiants défendant la ligne de l'imam, qui n'existait pas avant ça, pas sous cette terminologie du moins, a occupé l'ambassade américaine. Il y a eu toute une histoire, vraiment de la propagande énorme. L'État, enfin le gouvernement de la République islamique, a un moment hésité, comment faire? Mais très vite, ils ont compris l'intérêt qu'il y avait dans choisir cette ligne anti-impérialiste, encore une fois, pour imprimer en réalité leur idéologie sur le mouvement. C'est à noter que quasiment toute la gauche, sauf notre organisation, je préfère le dire, toute la gauche a crié victoire, bravo la République islamique, vous êtes anti-impérialiste, vous êtes ceci et cela. Ils ont manifesté et défilé devant l'ambassade américaine. Nous, on était quasiment les seuls, on se faisait massacrer par les autres, parce qu'on disait que la République islamique ne peut pas être anti-impérialiste. C'est impossible. Un gouvernement qui réprime son peuple, qui réprime les mouvements populaires, le mouvement paysan, le mouvement des étudiants, le mouvement des femmes, ne peut pas être révolutionnaire et anti-impérialiste. Donc, bon, ça a duré 444 jours, et après, ils ont libéré les otages. C'est après cette histoire-là que la guerre irano-irakienne a commencé. C'était une guerre qui existait depuis au moins une dizaine d'années. C'était toujours des conflits territoriaux, des escarmouches entre l'armée iranienne et l'armée irakienne. Mais à ce moment-là, dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient, il faut l'étudier réellement, cette guerre irano-irakienne, par rapport à la situation de la rente pétrolière, l'intégration pétrolière. TC, heureusement, il fait allusion et étudie la période à partir de 92, surtout sur la question de l'intégration de la rente pétrolière dans le capitalisme mondial, dans le capitalisme restructuré. Mais cette partie-là, c'est-à-dire au moment de la guerre irano-irakienne, de quelle façon la compétition entre l'Iran et l'Irak pour être un pivot de la rente, il faut l'étudier vraiment de façon précise. Mais je veux dire que cette espèce de conflit existait depuis des années et des années. À un moment donné, donc, on sait que l'Irak a attaqué l'Iran dans le sud du pays et donc l'Iran a foncé dans la guerre, mais vraiment comme s'il s'agissait d'un cadeau, quoi. Parce que, à la lumière de la guerre, il pouvait reconstituer l'unité nationale qui était, parce que de tout part, il prenait l'eau, quoi. Il y avait des mouvements de contestation de partout et la guerre leur a permis vraiment de reconstituer l'unité nationale au nom de la patrie et de sauver la patrie. Il a commencé à réprimer toutes les forces de contestation, quoi qu'il soit. C'est à la suite de ça que, dans notre première émission, j'ai mentionné les tués de 1988, les gens qui ont été massacrés dans les prisons. Après, par la suite, à la fin de la guerre aussi, on a eu un épisode tout à fait pareil. Mais donc, au 81, encore une fois, Pays Corps, c'est-à-dire notre organisation, les Mujahidines marxistes, étaient les seuls à condamner la guerre comme quelque chose qui était contre les intérêts des deux pays, tandis que toute la gauche, je précise, et ils ont suivi la République islamique, que la République islamique est anti-impérialiste, que l'Irak représente l'impérialisme, qu'il faut défendre la patrie. Il y en a même qui ont osé de dire aux ouvriers qu'il faut augmenter la production, il faut participer, aller sur les fronts. Enfin, on était les seuls à faire de la propagande contre la guerre. D'ailleurs, il y a eu plusieurs de nos camarades qui ont été tués courageusement, parce que c'est quelque chose de faire de la propagande contre la guerre au milieu du front, au milieu dans les régions du sud du pays où ils subissaient la guerre et les bombardements. Agir contre cette tendance était extrêmement difficile. Et après ça, donc, la guerre leur a permis de commencer à réprimer les gens, mais le mouvement populaire augmentait aussi. La gauche y participait, mais aussi les mujahidines, cette fois-ci les mujahidines musulmans, qui avaient pris de plus en plus de pouvoir et qui défendaient les libéraux. C'est-à-dire, au même moment, pendant la dernière année, on avait une compétition, une sorte de lutte interne au pouvoir entre les libéraux et la République islamique. Et là, la République islamique en a profité pour écarter du pouvoir complètement les libéraux. C'est-à-dire, une fois que la République islamique voyait qu'il avait pu plus ou moins réprimer les forces populaires, il est allé jusqu'à mettre de côté cette aile de la bourgeoisie libérale qui, à un moment donné, avait pensé profiter, soi-disant, de cette petite bourgeoisie sans programme qu'il pensait à l'époque. Et ça a été l'inverse, en fait. C'est cette petite bourgeoisie, soi-disant, petite bourgeoisie, qui a écarté les libéraux du pouvoir, il en a profité. Mujahedin, il était très important dans cette lutte populaire qui existait, ils avaient fomenté des attentats très importants, il avait tué beaucoup de responsables du régime, de la République islamique. Mais l'événement majeur de cette période-là, c'est le 20 janvier 81, on dit le 30 Khordad, donc Hezar Sadochast, 1360 en date persane, donc qui sont tombés sur tout le monde, qui ont fait table rase, ils ont arrêté les gens, ils les ont emprisonnés, ils ont commencé tout de suite par exécuter les gens dans les prisons, et on est rentré vraiment dans une période de répression noire qui a quasiment annihilé la gauche, le mouvement révolutionnaire en Iran pour cette période-là. Donc on rentre à partir de là dans une période dans la guerre irano-irakienne entre 81 et 88. Il est à noter qu'à un moment donné, en 83 précisément, l'Irak était rentré dans le territoire iranien. Il avait surtout pris une ville très importante qui est le Khorramshahr, qui est une ville pétrolifère du sud. Donc, et l'Iran, dans la guerre, arrive à repousser les forces de Saddam de Khorramshahr et de reprendre en fait la ville. Et donc là, c'est un moment très important de la guerre parce que l'Iran peut arrêter la guerre à ce moment-là. C'est-à-dire, une fois qu'il les a poussés dehors, il a recouvert son intégrité territoriale. Même les Nations Unies rentrent dans le jeu. Les Nations Unies proposent donc de faire la paix, une sorte de cessez-le-feu à ce moment-là en 83. Même les pays du Golfe proposent à l'Iran, comme c'était le pays agressé, qu'on leur paye des dommages à intérêts parce qu'ils ont subi la guerre et tout ça. Et donc, c'est un moment important. Khomeini, il refuse la résolution des Nations Unies et il fonce encore plus dans la guerre. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est une hypothèse à étudier, la République islamique se rend compte des intérêts que cette guerre pourrait avoir pour eux. C'est-à-dire, dans leur rêve fou, ils s'imaginent à la tête de 10 millions de barils de pétrole par jour. C'est-à-dire toute la capacité iranienne et toute la capacité irakienne. Ils se disent, pourquoi pas? Pourquoi on va pas jouer le rôle que Irak, plus tard, en envahissant le Koweït, il voulait jouer? Pourquoi pas nous qu'on prenne en charge la distribution de ce pétrole? Donc, à partir de 83, je sens une sorte de changement de tactique de la République islamique qui commence à parler, mais massivement, de l'exportation de la révolution islamique. Il a dit que le but, c'était de prendre Bassora et d'aller jusqu'à Jérusalem, foutre dehors les Israéliens. Enfin, je veux dire, c'est tout un discours anti-impérialiste, anti-Israël, qui se déchaîne là, à ce moment-là. et qui cache, j'ai l'impression, de nouvelles prétentions iraniennes dans la région par rapport à la distribution de la rente pétrolière. C'est quelque chose à mon avis, à étudier. Mais la guerre se poursuit donc jusqu'en 88, où Khomeini, il est obligé d'accepter, face au désastre, en fait, produit par la guerre au niveau intérieur, est obligé, enfin, d'arrêter la guerre. Comme il dit, il a bu jusqu'à la lie le poison. Donc, c'est, pour lui, c'était quelque chose d'affreux, mais il a été obligé de l'accepter.
Oui, c'est important, effectivement, de rappeler ce moment fondateur de la guerre Iran-Irak, où, au départ, on a effectivement l'Irak de Saddam Hussein qui essaye de profiter de la relative désorganisation politico-militaire de l'Iran pour l'envahir et tenter d'annexer la partie riche en pétrole et arabophone, donc le Châtel arabe, qui a un autre nom en persan, évidemment. Et malgré tout, l'offensive irakienne va buter face à la résistance de l'Iran, qui bénéficie à la fois de l'armée et des armements du Shah, également de livraisons militaires assez importantes de l'Occident, notamment, qui arment les deux camps. Et puis, ils vont utiliser la guerre pour mobiliser la population derrière le régime naissant et opérer la purge à gauche dont tu as parlé. Donc la période 1980, donc le début officiel de la guerre jusqu'à 1989, c'est une période où globalement le capitalisme iranien, c'est un capitalisme de guerre à dominante étatique en dehors du bazar, voilà, la quasi-totalité de l'économie en dehors du bazar et de la paysannerie est aux mains de l'État. Et à partir de la fin de la guerre de 1989, il va y avoir une modification qui va s'opérer en plusieurs temps. Il va y avoir la question de comment faire face aux contradictions économiques de la République islamique d'Iran, qui est extrêmement dépendante de la rente pétrolière, dans un contexte après 1986 de contre-choc pétrolier. Et la solution pour un certain nombre de politiciens iraniens qu'on va regrouper sous le nom de réformateurs, hein, l'aile réformateur ou modérée qu'on oppose aux conservateurs jusqu'à aujourd'hui, cette aile va promouvoir une libéralisation de l'économie et parfois également de la société et des institutions politiques, sans jamais évidemment remettre en cause fondamentalement la République islamique. Et donc il va y avoir un certain nombre de tournants libéraux, plus ou moins avortés depuis lors. Donc en 89, en 92 sous la présidence de Rafsanjani, en 97 avec l'élection surprise du réformateur Khatami, en 2001-2003 de nouveau sous Khatami, et puis jusqu'à aujourd'hui, même sous Ahmadinejad de 2005 à 2013, qui est pourtant un candidat conservateur, va y avoir quelques tentatives de libéralisation. Alors, évidemment, il serait faux de dire qu'il n'y a pas eu d'effet et qu'il n'y a pas eu de politique de libéralisation. Il y a eu une libéralisation progressive de l'économie depuis 1989. Et ça a fait qu'on est passé globalement d'un capitalisme d'État dans les années 1980 à un capitalisme qui est à la fois de connivence et para-étatique. C'est-à-dire que globalement, l'essentiel des privatisations ont bénéficié non pas à une classe capitaliste séparée, au sens où elle serait formellement autonome vis-à-vis de l'État, mais ça va plutôt bénéficier à des fondations religieuses, aux pasdaran, aux anciens dirigeants des entreprises publiques, etc., etc., qui vont former une espèce de classe capitaliste para-étatique qui détient des parts énormes dans l'économie, non pas parce qu'elle aurait réussi sur le marché à se tailler une part de lion, mais simplement parce qu'elle a hérité ses parts de l'économie de l'État lui-même. Donc il y a une mutation, mais fondamentalement, le capitalisme reste d'une part aux mains de forces relativement similaires, ce qui fait que théorie communiste parle de la République islamique comme d'un conglomérat, où finalement ce sont les mêmes forces qui contrôlent l'économie du pays depuis 1979. Et puis d'autre part, ces libéralisations, leur but affiché, c'était de réussir enfin l'intégration du capitalisme iranien à l'économie mondiale à travers tout un ensemble de mesures néolibérales cette fois. On n'est plus dans le modèle de la modernisation de rattrapage étatique, auto-centré, protectionniste, comme on avait encore sous le Shah, mais là, on est vraiment dans un modèle néolibéral. Et Ces réformes, elles vont échouer pour une raison très simple, c'est que si elles étaient menées jusqu'au bout, elles remettraient en cause la République islamique elle-même en tant que État populiste. Et donc, je pense que ce serait important, voilà, maintenant de revenir sur la nature de la République islamique et du capitalisme qui la caractérise, et sur le fait que, en fait, même si il peut y avoir un jeu de balancier entre conservateurs et réformateurs depuis 1989, même les réformateurs qui affichent leur volonté de transformer la société iranienne ne peuvent pas transformer la société iranienne sans s'appeler la base de la République islamique. Tout le fait que, à partir de 2009 et plus encore de 2013, avec le retour des réformateurs au pouvoir, on se rend compte globalement que les réformateurs et les conservateurs, finalement, ne sont que les deux faces d'une même pièce qui défendent le statu quo avec des adaptations plus ou moins rapides en fonction de la situation économique et financière de l'Iran, les réformateurs poussant un peu plus à des réformes pour faire face à la crise financière et économique de l'Iran, alors que les conservateurs, eux, freinent plutôt des quatre fers. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus?
Tu as bien dressé en fait la perspective à partir de 89. C'est la fin de la guerre. C'est à ce moment-là que, en 88, comme on a dit, ils ont fait table rase de toutes les forces révolutionnaires. Ils ont tué tout le monde. Les prisonniers même qui étaient déjà condamnés, ils ressortent pour les exécuter sur le champ. Donc il y a des milliers de morts à ce moment-là. Mais néanmoins, la République islamique arrive plus ou moins à se stabiliser à ce moment-là. Et au même moment, on sait qu'en 89, c'est la mort de Khomeini. Et l'arrivée au pouvoir de Khomeini, un mois avant que Khomeini soit mort, il ordonne, enfin, on lui fait signer un papier qui constitue en fait ce qu'on appelle l'état-major exécutif du commandement de l'imam, en fait, qui est un organisme soi-disant de bienfaisance, mais qui a des activités économiques. Et ces activités économiques, pour soi-disant la bienfaisance, couvrent quasiment toutes les propriétés qui existaient avant. Que ça soit du régime de Shah, les usines, par exemple, que les propriétaires avaient laissé tomber, qui s'étaient enfuis, les bâtiments qui s'étaient enfuis, enfin, toute la richesse lâchée au moment de l'insurrection par l'ancienne classe qui était au pouvoir, c'est-à-dire cette bourgeoisie comprador, avait lâché, en fait, c'est cet organisme qui les récupère et donc qui commence, à côté de l'armée des Pasdaran, de faire des affaires. Il entre dans les affaires. Et donc, et au même moment, c'est-à-dire en 90, dans les années 90, les Pasdaran aussi, ils obtiennent en fait l'autorisation de faire de l'économie, de participer à l'économie et d'avoir des activités économiques. Ça fait que toute la production du pays et toute la richesse du pays et s'est accaparée par ces deux organismes. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont actifs quasiment dans tout, non seulement les Pasdaran, mais également l'état-major exécutif de l'imam. Ils sont dans tous les secteurs que tu peux imaginer de l'économie, de l'hydrocarbure jusqu'à la production pharmaceutique, les mines, la construction, le BTP, enfin partout ils sont présents. C'est-à-dire c'est cette façon de produire et de faire fonctionner l'économie iranienne qui fait que on peut pas imaginer une classe capitaliste non idéologique, une classe capitaliste séparée. Donc la République islamique devient de fait par le fonctionnement qu'il est obligé par la force des choses entre les contradictions qu'il subit du mouvement populaire d'un côté et donc pour pouvoir justifier sa présence en tant qu'une force anti-impérialiste musulman qui défend le peuple musulman et les concepts que cet islam a créés depuis les années 70, c'est-à-dire cet islamisme politique avec tout ce qui va avec, soi-disant de justice sociale, de ummah, c'est-à-dire de la communauté des musulmans, et les mostazafines, c'est-à-dire les déshérités. Sous ces concepts-là, s'est construit tout un empire économique qui, en gros, appartient aux Pasdaran et aux guides. Et donc, on voit se stabiliser le pays, la République islamique, sous quelque chose qu'il parle de nizam. Nizam, ça veut dire l'ordre, le système. Donc, quand une fois ils ont massacré et éliminé tout ce qui pouvait constituer une sorte de contestation de Nézam, forcément toutes les oppositions qu'ils peuvent avoir vont être que des oppositions internes au Nézam. Donc les deux tendances qui vont se constituer progressivement dans les années 90, entre les pragmatiques, c'est-à-dire ceux qui voient la nécessité de commercer avec l'extérieur et d'avoir un minimum d'ouverture envers l'extérieur, et les radicaux qui sont attachés à ce discours soi-disant révolutionnaire anti-impérialiste. Mais il faut comprendre que ce discours anti-impérialiste est nécessaire pour eux. Pour, par exemple, Sepoy et Posseron, qui a obtenu vraiment une légitimité tirée par l'effort de guerre qu'ils venaient de faire, ils ont une légitimité qui leur permet d'être présents partout dans tous les organes du pays. Et donc, ils ont besoin de ce système d'interdiction, de conflits permanents, de sanctions, parce que c'est contourner ce système, contourner ces sanctions qui leur permettent de vivre, de se nourrir et de se développer. Dans le flux du capital, c'est une sorte de courbure qu'il impose en réalité au système pour que ça puisse fonctionner. Cet fonctionnement contrarié, je dirais, augmente leurs bénéfices, c'est la source de leurs bénéfices. Entre-temps qu'on entend que, par exemple, les gardiens de la Révolution, ils ont construit des aéroports spécifiques pour l'import-export qu'ils font eux-mêmes en douce, ou qu'ils ont fait 80 ports dans le Golfe pour pouvoir recevoir et envoyer cette économie parallèle qui est constituée par les posterons et puis les gens qui sont plus ou moins liés au régime, ça fonctionne, et c'est de cette manière-là que cette économie fonctionne. C'est une économie qui a plus de 80% et dans les mains de ces gens-là, c'est un fonctionnement que j'appellerais idéologique, constitué de rentes, de privilèges et de connaissances, et ceux qui sont avec le Nézam et ceux qui ne sont pas avec le Nézam. Donc à partir de là, on voit qu'on a un jeu de bascule. D'un côté, on a un libéralisme de l'économie, même un appel à l'investissement étranger, aux emprunts internationaux, au retour des capitaux étrangers, mais qui n'aboutit pas parce que l'autre partie, il vient contrecarrer et lutter contre ce fonctionnement-là. On a ce système qui s'installe donc à partir des années 90, mais cela n'empêche pas que la société en tant que telle développe en son sein ses modes de production. Tu as une société qui est devenue de plus en plus une société, je dirais, salariale. Le corps des fonctionnaires a doublé pendant les 10 premières années de la Révolution. On a quelque chose comme 2,5 millions de fonctionnaires, avec autant de retraités, donc dont l'État est obligé de les payer. Cette société existe, donc ces classes existent par les périodes qu'on a vues, que c'était les pragmatiques qui étaient au pouvoir ou les réformistes qui étaient au pouvoir. Il essayait, par exemple, de libéraliser l'économie, soi-disant, de faire passer au secteur privé, mais un secteur privé qui n'existe pas, ou c'est un secteur privé qui dépend directement encore des connaissances de la famille, des gens de ce genre-là, qui petit à petit s'écartent de cette légitimation idéologique. C'est-à-dire, on a dit qu'en Iran, du fait du fonctionnement de ce système, on n'avait pas en fait un État au sens classique du terme, c'était un État que théorie communiste définit comme un État non séparé. C'est-à-dire, l'État ne s'est pas séparé de la société, ça constitue une totalité qui englobe en réalité tout. Et on voit néanmoins qu'une société civile commence à exister. Ça, on l'a vu vraiment au moment de 2009. 2009, c'était là où cette société civile, qui existe de fait, mais qui n'a pas droit à la parole, d'un seul coup commence à contester une élection qui lui semble complètement formatée. Ça n'a aucun sens. La grande majorité des gens ont voté pour le candidat réformateur et c'est Ahmadinejad qui sort du chapeau. Donc, ça crée une explosion des classes moyennes à ce moment-là. À ce moment-là, si on analyse la situation, on voit que en réalité, la société demande la constitution d'un État séparé. Donc, l'enjeu de la lutte à ce moment-là, c'est entre ceux qui veulent garder le pouvoir strict donc de la République islamique et du Nézam d'un côté, et puis de ceux qui veulent avoir quand même une société civile, une espèce de démocratie, des relations avec l'étranger, normalisation des rapports, ouverture envers l'étranger. Et donc, on a ce mouvement, en fait, le mouvement vert qui existe en 2009, c'est l'expression d'une telle contradiction. Mais les événements qui se suivent par rapport à ça nous montrent d'autres perspectives, ouvrent d'autres perspectives. Parce que dans les mouvements agraires qu'on a vus, c'était surtout vraiment les pauvres des villages, mais vraiment éloignés, qu'on ne connaissait même pas de nom, les villageois pauvres qui étaient entassés dans ces régions-là, c'est des régions oubliés vraiment de la République islamique. Ce sont des parties de territoire qui sont complètement lésées. D'ailleurs, c'était eux qui constituaient vraiment la base de la République islamique, la base idéologique de la République islamique, qui se sont retournés contre la République islamique, et ça a donné ce mouvement-là. Mais la faiblesse de ce mouvement, c'est que ça s'est resté cantonné dans ces villages-là, et ça n'a pas pu raviver ce qui avait existé en 2009, par exemple dans les grandes villes. Et en plus, je pense que on voyait une première tentative de sortir de ce schéma de lutte entre la République islamique et sa société civile de ce type-là, par le fait que donc on avait des couches populaires, réellement populaires, agraires, qui sont rentrées dans le mouvement, et dans le mouvement qu'on a eu il y a 2 ans à peu près, qu'il s'agissait cette fois-ci, au contraire, des chômeurs, des prolétaires, aux alentours des grandes villes qui ont subi d'un seul coup l'effet de l'augmentation du prix de l'essence. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de travail ou qui ont un travail, mais qui sont obligés de travailler avec leur petite voiture, de participer au transport humain pour gagner un peu, pour arrondir les fins de mois. Donc, c'est ces gens-là, les prolétaires donc des banlieues de Téhéran qui sont constitués par l'exode rural durant toutes ces années. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'allure générale du mouvement, quand tu les regardes, tu vois que c'est sur les axes des blocages de flux, sur les axes routiers principaux des grandes villes, qui faisaient que ces gens-là qui venaient des banlieues, les pauvres des banlieues, les banlieusards, les gens qui étaient même dans les bidonvilles anciens, tous ces gens-là qui sont venus, c'était vraiment le prolétariat urbain qui participait à la lutte. Néanmoins, ça n'a pas continué, c'est-à-dire que ça n'a pas fait bouger cette société civile qu'on avait vue en 2009. Mais c'est ça qui, à mon avis, ouvre un autre horizon dans la suite des événements qu'on pourrait éventuellement avoir en Iran. C'est que l'Iran, de toutes les forces démocratiques qui correspondaient aux luttes de la société civile, que ça soit parmi les femmes, les étudiants, les artisans, enfin, on avait toutes des mouvements séparés, et surtout le mouvement ouvrier énorme, énorme qui existe en Iran. Il y a une association de soutien de mouvements ouvriers qui s'est amusée à calculer le nombre d'actions et de mouvements de protestation qu'on a eu dans les usines à partir de l'insurrection de 79 et qu'il avait comptabilisé plus de 1700 actions et mouvements. Donc on a constamment des mouvements de l'action et des grèves au sein même du mouvement ouvrier, mais ce mouvement ouvrier général, qu'est-ce que ça va donner? Comment ce mouvement ouvrier général peut arriver en fait à s'unir avec le mouvement qu'on a eu il y a 2 ans? Et qu'est-ce que ça va donner? Quelle perspective ça va ouvrir sur les possibilités de la révolution en Iran, tout en sachant que au même moment, on a des révolutions qui sont en train de se dérouler en Irak et contre les prétentions de la République islamique à être un acteur majeur de la région, sa présence en Syrie, sa présence au Liban, et tous les mouvements qui sont contre cette présence, en fait, qui luttent contre cette présence. Donc ça nous ouvre d'autres horizons dont l'avenir est porteur.
Oui, c'est important effectivement de rappeler tout ça, parce que finalement, on pourrait dire que ce qui a fait la force du régime islamique en 1979, c'est-à-dire d'être cette espèce de synthèse populiste qui serait traversée par toutes les classes, et en même temps à l'origine aujourd'hui de ces contradictions, même si on voit que ces contradictions, il les partage en réalité avec l'ensemble des pays de la région. On a consacré là-dessus une émission avec Guillaume Deloison, puisqu'on retrouve quand même un certain nombre de paramètres en commun. On peut dire que, de par le sous-développement du capitalisme national et sa non-intégration réussie au marché mondial, le populisme islamique, en tant que mouvement interclassiste, même si sous domination des classes moyennes, du bazar et du clergé, était favorisé pour son accession au pouvoir lors de la révolution de 1979. En même temps, ce régime, il fait face à un certain nombre de contradictions. D'abord, les contradictions inhérentes à un capitalisme rentier, qui le force régulièrement, lorsque les prix du baril sont plus bas, à tenter des réformes. Et le problème, c'est que ces réformes, généralement portées par l'aile modérée, réformatrice, peu importe comment on l'appelle, elles butent sur le fait que, comme l'État et la société finalement ne sont pas séparés formellement, comme l'État bourgeois et la société capitaliste en Occident peuvent être séparés et distincts, mais qu'en réalité, l'État, notamment à travers son omniprésence économique, est partout. Et donc, une réforme de l'économie, ça veut dire également une mise en cause du modèle étatique et du compromis social sur lequel est fondée la République islamique. C'est-à-dire que si on prend les différentes catégories de population, disons une ouverture forcée du capitalisme iranien à l'économie internationale, comme ça s'est produit dans un certain nombre de pays depuis les années 70, ça conduirait probablement à un écrasement du bazar, qui perdrait son monopole et sa rente liée à ce monopole. Ça conduirait également à un appauvrissement encore plus important de la paysannerie, qui est déjà menacée par la montée de l'agro-business ces dernières années. Ça conduirait également à une élimination d'un certain nombre de fonctionnaires et ça conduirait également à la fermeture d'un certain nombre d'usines qui ne sont pas compétitives sur le marché international. Et enfin, ce serait la fin de tout le capitalisme de connivence et rentier dont bénéficient le régime et ses alliés, c'est-à-dire les pasdaran, les fondations religieuses, etc. Donc, d'une certaine manière, le régime de la République islamique est obligé de se réformer pour survivre économiquement, notamment dans les périodes de baisse de la rente pétrolière, mais en même temps, s'il libéralise réellement l'économie, c'est l'effondrement du conglomérat d'intérêts sociaux sur lequel il est fondé. Et donc, tout ça, ça fait que la seule force qui aurait réellement intérêt à la modification de ce compromis social, ce sont les classes moyennes salariées modernes, qui ont été à la pointe du mouvement vert de 2009. Ce qui a fait qu'ils ont été relativement seuls en 2009, et que ce n'est que plus récemment qu'il y a eu d'autres catégories qui ont participé à la contestation, c'est que les paysans, en 2017, ils ont exprimé leur mécontentement contre la politique agraire de la République islamique d'Iran, mais ils savent très bien que l'effondrement de la République d'Iran pourrait conduire à une situation encore pire, avec éventuellement la restitution des terres à leurs anciens propriétaires, puisqu'il y a une partie des terres qui leur ont été données après la révolution de 1979, et également, ils pourraient être frappé de plein fouet par l'insertion dans l'économie mondiale. Et ça explique pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, la République islamique d'Iran a réussi à conserver un relatif consensus. Néanmoins, sa force est en train peut-être de devenir sa faiblesse, puisque de toute façon, de par ses difficultés économiques, la République islamique d'Iran est de plus en plus forcée de libéraliser. Le soulèvement de 2019 était précisément causé par l'augmentation du prix de l'essence liée à une diminution des subventions. Ça fait que la République islamique d'Iran est en train de saper sa base de légitimité. Et comme elle ne tient sa légitimité aujourd'hui que principalement parce qu'elle tient la société économiquement, elle risque de se voir liguer contre elle non pas seulement les classes moyennes salariées modernes qui ont moins d'intérêt à sa conservation, mais l'ensemble de la société qui, n'ayant plus rien à attendre de la République islamique, pourrait se retourner contre elle. Et c'est ce qui a commencé à se passer en 2019. Et là-dessus, on pourrait même dire que c'est aussi une dynamique qu'on retrouve dans d'autres pays. Par exemple, au Liban, auquel on a consacré une émission, le système politique confessionnaliste en place, a tenu jusqu'à aujourd'hui parce que il favorisait l'ensemble des bourgeoisies confessionnelles et que finalement tout le monde dépendait du bon fonctionnement de ce système. Mais du fait des contradictions socio-économiques de ce système, ce régime politique offre toujours moins de perspectives socio-économiques à la population et donc les gens, alors qu'ils étaient tous d'une certaine manière liés à ce régime, peuvent se retourner contre lui. Donc, on a là une situation un petit peu générale finalement au Moyen-Orient où les caractéristiques qu'on a évoquées sur l'Iran sont à peu près toujours là, c'est-à-dire que c'est toujours des capitalismes qui n'ont pas réussi leur insertion sur le marché mondial, des capitalismes qui ont connu des libéralisations partielles à partir des années 70 et surtout des années 90, mais qui en réalité n'ont pas abouti sur une insertion réussie sur le marché mondial, mais au contraire sur l'accaparement de ce qui auparavant était aux mains de l'État au profit de capitalistes de connivence. Donc en Iran, c'est les fondations religieuses et les passes d'Aran. Et dans d'autres pays, ça peut être des affairistes proches du président. Voilà, il y a différents modèles au Moyen-Orient. Mais disons que avec la montée des contradictions de ce capitalisme de rente et de monopole qu'on observe partout dans le Moyen-Orient, eh bien la légitimité de ces régimes, et notamment celui de l'Iran, est en train progressivement de s'affaisser, ce qui fait que on a une montée des contestations interclassistes qui se retournent contre cet État qui était lui-même interclassiste. Donc les forces de ces régimes se retournent en faiblesse du fait de la situation socio-économique. Mais d'un autre côté, ne soyons pas trop optimistes, il faut bien avoir à l'esprit que le fait même que cet État interclassiste favorise une union interclassiste contre lui du fait de ses contradictions économiques, mais qu'en même temps, ça veut dire qu'on a des classes qui ont des intérêts très différents à abattre la République islamique et ailleurs d'autres régimes qui fonctionnent selon des modalités relativement similaires. Et donc, ça veut dire que très probablement, on ne va pas vers la révolution communiste, mais peut-être vers une prise du pouvoir par une bourgeoisie libérale, une classe capitaliste réellement séparée. Je pense que c'est important aussi d'avoir à l'esprit le fait que le prolétariat ouvrier n'ayant pas les mêmes intérêts que le prolétariat de l'économie informelle, n'ayant pas les mêmes intérêts que les petits employés d'État, n'ayant pas les mêmes intérêts que les paysans, n'ayant pas les mêmes intérêts que les classes moyennes salariées modernes, eh bien, certes, ils peuvent trouver une forme d'unité contre la République islamique, mais derrière, ça ne peut qu'être une lutte de classe et une rupture de l'interclassisme qui peut mener à peu près tout, et probablement pas à la révolution communiste.
Tu as parfaitement raison. Mais bon, on ne fait pas de la politique fiction, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour moi, ce qui était important, c'était justement de dire qu'on peut avoir de nouvelles perspectives qui s'ouvrent avec ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce qui se passe surtout pour moi en Irak. Très souvent, la République islamique, dans sa prétention à une lutte anti-impérialiste pour justifier sa présence dans le Moyen-Orient et dans tous ces pays-là, parce que vraiment la République islamique est réellement présente en Syrie, en Irak, au Liban, Djibouti, là où il peut éventuellement, avec cette idéologie d'islamisme pour le peuple contre l'impérialisme et les pays occidentaux, il essaie d'être présent. Tout le monde se demandait. Mais pourquoi il essaie d'importer, soi-disant, la révolution islamique? Une des personnages de la politique iranienne qui s'appelle Abbasi, qui est une espèce de fasciste encore plus à droite, si c'est possible, de la République islamique, qui défend le Nézam, qui défend la République islamique, mais tout en étant critique, mais critique dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le critique qu'il est un défenseur total des institutions comme les Pasdaran. Je pense d'ailleurs qu'il est nourri par ça, parce qu'il a un institut politique, universitaire. Donc c'est lui qui disait que, mais attendez, pourquoi vous êtes en train de crier dans vos slogans, nous ne voulons pas aider la Palestine, nous ne voulons pas aider, parce que nous-mêmes, on est en train de crever la dalle, pourquoi vous allez mettre de l'argent chez les Palestiniens, chez les Syriens et autres? Et lui, il a dit dans son discours, mais vous comprenez absolument rien. Si Soleimani, le patron de l'armée Quds, qui est la branche des postes de la Révolution, qui est actif au Proche-Orient, surtout en Syrie, en Irak, il a dit, mais si lui, il est allé mettre de l'argent, il a mis 40 millions de dollars en Irak, mais on a ramassé 13 milliards à la place. S'il met de l'argent en Syrie, vous vous demandez, mais pourquoi on est présent en Syrie? Mais à la place de tout ce qu'on fait en Syrie, tous les équipements qu'on leur donne, toute l'armée, toutes les armes qu'on leur donne, notre présence militaire, le gouvernement Assad nous a accordé pour 70 ans l'exploitation de toutes ces mines. Donc on voit d'un seul coup. Ce sont des données que jamais personne n'en parle, qu'ils développent vraiment leur commerce. Et quand on regarde les données du commerce iranien, on voit qu'essentiellement, tout ce qui est exporté de la part d'Iran, essentiellement, ça va dans les pays de la région. C'est la Turquie, c'est l'Irak, c'est la Syrie, c'est à côté, bien entendu, de la Chine et de la Russie, mais c'est essentiellement dans cette partie du monde. Donc, la République islamique investit de plus en plus dans ce forme qu'il a créé en réalité, il est en train d'avancer. C'est vrai qu'on a des luttes populaires, mais ces luttes restent quand même, n'arrivent pas à s'unir pour produire quelque chose. La révolution dont on parle de cette façon-là ne peut pas être une révolution nationale, ne peut pas être une révolution iranienne. C'est pourquoi cette ouverture de la classe ouvrière iranienne, éventuellement toute cette région pétrolifère vers l'Irak et tout ça, ça permet, comme je l'ai dit, éventuellement d'ouvrir des perspectives qu'on n'arrive même pas aujourd'hui à définir ou à imaginer, parce qu'il faut sortir de la façon que fonctionne en général la théorie, qui est la théorie formatée, et que dans le mouvement réel de la lutte de classe, il faut essayer de voir la théorie en train de naître, la théorie en train de se constituer dans les luttes des gens, quoi. Donc notamment dans le mouvement ouvrier. C'est ça qui me donne un espoir vers le futur, plus qu'attendre que la société civile iranienne bouge et qui transforme la société pour créer un État séparé. Je ne sais pas si commence, certainement, si on veut vraiment se lancer dans la politique fiction, il faut imaginer quelque chose de ce type, et puis derrière, il aura à affronter la classe ouvrière iranienne, malgré toute la difficulté que cette classe aura à s'unifier. Mais ça, c'est, je pense, rester encore dans les schémas anciens et de ne pas voir que la théorie se fait dans les luttes.
Oui, je pense que tu as raison de revenir sur ces deux aspects. D'une part, voilà, l'Iran comme puissance impérialiste, qui finalement peut se prétendre anti-impérialiste et s'oppose effectivement aux intérêts occidentaux des États-Unis, principalement par sa volonté de créer une zone d'accumulation capitaliste séparée, un petit peu comme au temps de l'URSS, même si c'est de manière moins forte. C'est-à-dire que l'Iran, depuis 1979, fonctionne en partie en vase clos, en dehors de ses exportations pétrolières et en dehors des importations qu'il reçoit. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de liberté de circulation des capitaux, il n'y a pas toutes les caractéristiques de la mondialisation qui sont présentes en Iran. Et là, le danger est encore plus important puisque l'Iran tente d'exporter son modèle d'accumulation capitaliste relativement séparé du marché mondial, hein, j'ai bien dit relativement, puisqu'aujourd'hui c'est quasiment impossible d'être complètement séparé du marché mondial, mais il tente d'exporter ça avec plus ou moins de succès dans le reste de la région, et tu as bien fait de rappeler effectivement qu'en Syrie et en Irak, ça fonctionne quand même relativement bien puisque l'Iran a mis la main sur une partie de l'économie régionale. Mais pour revenir sur la question de la révolution sur laquelle on va finir cette émission, tu as bien raison de dire que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, que de toute façon, la révolution iranienne toute seule ne sera pas possible. Elle n'est possible que dans le cas, à minima, d'une révolution régionale, et probablement seulement, si elle veut vraiment réussir, d'une révolution mondiale. Alors, certes, effectivement, du point de vue des limites potentielles à l'action du prolétariat dans le cas d'une situation potentiellement révolutionnaire, on a le fait que, dans le cadre d'un capitalisme non pleinement développé et comme celui de l'Iran, il y ait une espèce de réédition de 1979, dans le sens où le prolétariat peut éventuellement se tourner vers l'option d'un capitalisme national qui enfin serait pleinement développé. Et là, par rapport à ça, c'est vrai que la dépendance du prolétariat à la rente pétrolière sous la forme de subventions fait que la lutte des classes en Iran, comme le dit très bien Théorie communiste, est une lutte de classe qui est avant tout conçue de manière politique. C'est-à-dire que, du point de vue du prolétariat, ce qui est demandé, c'est les arriérés de salaire, et c'est un maintien des subventions, etc., etc. Donc il n'y a pas ce face-à-face entre le capital et le prolétariat qu'on retrouve peut-être plus ailleurs. Et ça, à mon avis, un facteur qu'il faut prendre en compte et qui est lié à la rente pétrolière et à des aspects qu'on a déjà évoqués dans l'autre émission. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut se dire que le fait que la République islamique soit un mode de production et un rapport de production à lui-même fait que le prolétariat et d'autres classes, en s'attaquant à la République islamique, certes ne s'attaquent pas au capitalisme et à l'État en tant que tel, Mais l'État et le capital étant tellement liés dans la République islamique que d'un côté, certes, ça peut déboucher sur voilà, un vrai État séparé, un vrai capitalisme séparé, si c'est plutôt la tendance classe moyenne salariée qui triomphe, mais dans le cadre d'une révolution régionale et sans doute mondiale, par contre, le prolétariat pourrait se tourner vers l'autre extrême, entre guillemets, qui est de qu'en s'attaquant à l'État et au capital réellement existant, il s'attaque à la société de classe et au capitalisme et à l'État en tant que tel. Et donc, finalement, ce sont des conditions de la révolution mondiale, disons particulière à l'Iran, qui certes sont différentes dans d'autres pays, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est condamné à être simplement une révolution démocratique, une forme de révolution bourgeoise. Effectivement, comme tu as dit, les paramètres sont différents de la révolution en Iran, mais ça ne veut pas dire pour autant que on est condamné à une répétition de la révolution de 79 et de ses impasses.
Non, c'est sûr, rien ne se répète. Mais il faut constater qu'en Iran, on n'arrive même pas à faire une révolution. La révolution constitutionnelle, ça n'a pas marché. La révolution de 79 non plus, ça n'a pas marché. Donc on est entre les deux révolutions, toujours le regard vers la prochaine.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme.